Alors bonjour, nous revoilà. Et comme je disais il y a quelques minutes, beaucoup de sujets, nous allons aborder beaucoup de sujets dans la parole de Dieu, dont les paroles de Jésus. Souvent, on parle sur des thèmes, on parle sur des sujets, mais on oublie comment que les paroles de Jésus, comment ça a un impact, comment ça peut avoir un impact sur notre vie, sur la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que Jésus était le plus grand prédicateur. Alors, toutes les paroles qu'il a dites, on pourrait les analyser, on pourrait les regarder et les appliquer dans notre vie. Et ce matin, c'est ce qu'on va voir. Et pour cela, on va tourner dans le livre des Philippiens, l'Épître aux Philippiens, chapitre 4 et verset 6. Philippiens, chapitre 4 et verset 6. Et nous lisons, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Le titre du message ce matin, « Les inquiétudes. » Nous allons regarder après cela un autre texte dans Matthieu et nous allons voir qu'est-ce que Jésus a dit concernant les inquiétudes. Paul parle aux Philippiens puis leur dit « Ne vous inquiétez de rien. » Quel croyant n'a pas d'inquiétude? Nous aurons toujours des inquiétudes, des difficultés, des tensions, de l'anxiété. Nous vivons dans un monde moderne où les gens sont anxieux, les gens sont inquiets, les gens sont stressés, la vie va très, très vite. Et pour toutes sortes de raisons, ça amène les gens souvent à être médicamentés. Ça amène les gens à être alcoolisés. Ça amène les gens dans plusieurs choses. Le fait d'être inquiété. La vie du croyant, c'est une vie qui est palpitante, avec des obstacles, des tribulations, des attaques de l'ennemi. Jésus a dit, « Celui qui veut me suivre devra porter sa croix. » Et je dirais que l'angoisse, l'inquiétude fait partie de notre vie. L'angoisse et l'inquiétude fait partie de notre quotidien. Mais il y a des chrétiens qui sont constamment inquiets. Et cela les empêche d'être épanouis spirituellement. Souvent dans le doute même de Dieu. Et nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, vivre constamment dans l'inquiétude et l'anxiété. Vivre dans l'inquiétude est contraire à l'enseignement de Jésus. Et pour cela, on va tourner dans le livre de Matthieu, chapitre 6 et verset 25. Qu'est-ce que Jésus a dit par rapport aux inquiétudes? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Alors ça, c'est l'enseignement de Jésus sur les inquiétudes. Jésus a parlé des inquiétudes alors qu'il est en train de faire son premier sermon, les Béatitudes, le sermon sur la montagne. Et il traite de ce sujet des inquiétudes, de l'anxiété. Combien de fois Jésus a dit « Ne vous inquiétez donc pas. » Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et continue, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Puis il finit par, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Ne vous inquiétez donc pas. C'est au présent, c'est pas au passé, c'est pas au futur, c'est au temps présent, c'est un conseil, c'est une ordonnance, c'est même un commandement. Pourtant, je dirais que dans ce temps-là, dans le Nouveau Testament, la vie n'était vraiment pas facile. Ça n'a rien à voir avec la vie d'aujourd'hui. On devait planter, on devait cultiver la terre, on devait récolter, et après ça, on allait au marché, pour voir ce qu'on pouvait vendre, ce qu'on pouvait avoir, ce qu'on pouvait troquer contre ça. On vivait beaucoup de l'agriculture à l'époque. De plus, l'eau était une denrée rare. Beaucoup de gens faisaient leurs vêtements. Les gens, dans ce temps-là, vivaient pour survivre, boire et manger. Pourtant, Jésus est clair. Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. C'était une parole vraiment saisissante dans ce temps-là. Je ne sais pas comment les gens ont réagi quand ils ont entendu cela. Surtout, comme j'ai dit, à cette époque-là, alors que il y avait beaucoup de famines. Il pouvait y avoir aussi l'eau qui manquait, et il n'y avait pas tous les soins, tous les services qu'on a aujourd'hui, les services sociaux. Le Seigneur ne demande jamais des choses qui sont hors de notre portée. Et quand il a dit ça, sur la montagne, il connaissait les limites des gens aussi dans ce temps-là. Il connaissait leurs faiblesses. Alors Dieu ne demande jamais, le Seigneur ne demande jamais des choses hors de notre portée. Mais l'inquiétude est négative. L'inquiétude enlève notre paix. L'inquiétude empêche de dormir. L'inquiétude peut provoquer des maladies physiques, des dépressions, une humeur maussade. L'inquiétude, c'est un fardeau. Je peux vous en parler de l'inquiétude parce que je suis souvent dans l'inquiétude. J'ai été dans l'inquiétude la semaine passée. Et c'est vraiment un fardeau. Ça vole votre humeur, ça vole votre paix, votre foi, votre témoignage. Et l'inquiétude, c'est un péché. On met tout le temps les gros péchés en avant et on ne pense pas que certaines choses, ce sont des péchés. Pourquoi c'est un péché? Parce que c'est un manque de confiance en Dieu. Les croyants sont anxieux, on est inquiet, on est instable quand on est inquiet. On est vulnérable dans les épreuves et les tentations. L'inquiétude, c'est une violation de l'Écriture. Parce que le Seigneur veut qu'on soit stable spirituellement. Qu'on soit des chrétiens qui tiennent ferme, attachés à nos convictions, courageux. C'est certain qu'il y a des moments qui sont difficiles, des moments qui sont plus durs spirituellement, plus on est plus faible, il y a des tentations. Et on sait que souvent, il y a des problèmes qui viennent de la part de Dieu également. Mais comme on dit dans la Bible, il y a des moments où que nous traversons la vallée de Baca. La vallée de Baca, c'est la vallée des pleurs, la vallée qui est aride. C'est une vallée qui est aride. C'est une vallée qui est sur le chemin de Jérusalem. C'est pas une belle vallée. Alors, on l'appelle la vallée de Baca. Et un personnage de la Bible qui a eu sa part d'inquiétude, c'est Job. Job a eu une part d'inquiétude, a eu sa part d'inquiétude, mais il n'a pas bronché car il mettait sa confiance en Dieu. Ceux qui vivent tout le temps dans l'inquiétude, c'est un manque de confiance en Dieu. Si je reprends avec l'histoire de Job, qu'est-ce que sa femme a dit? Sa femme a dit à Job, a dit, « Maudit Dieu et meurt. » Alors, dans son cœur, je pense que vraiment dans son cœur, elle l'avait maudit. Sa femme a péché contre Dieu. Probablement l'anxiété, l'inquiétude. Et quand on est inquiet, quand on est anxieux, ça peut nous amener très, très loin. Ça peut même nous amener à ne plus croire en Dieu et à pécher contre lui. Et on part dans l'idée que Dieu ne peut plus rien faire pour nous. Pourtant, Dieu est souverain. Il ne faut pas oublier, frères et sœurs, que nos besoins sont sur l'agenda de Dieu. Deutéronome, chapitre 2, verset 7, il est écrit, « Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Il a pourvu pour Israël, il pourvoira pour nous. » C'est l'essence même du christianisme, la bonté de Dieu. L'Éternel est bon, sa miséricorde durera toujours. Il faut marcher par la foi. Jésus dit, gens de peu de foi. Il y a quelqu'un qui a dit, Georges Muller a dit, le début de l'anxiété est la fin de la foi. Et la fin de l'anxiété est le début de la foi. Samson était fort. Et sa force venait de sa consécration à Dieu. Le chrétien qui est inquiet coupe sa consécration avec Dieu. Il ne faut pas être, frères et sœurs, comme les païens qui s'inquiètent pour des peccadilles. Nous avons une espérance en Jésus-Christ, nous avons une espérance en Dieu. Dieu prend soin de nous. Et souvent, on va dire, « Ah, s'il arriverait telle chose, s'il arriverait telle chose. » Si je vais être malade, non, il faut tout mettre dans les mains du Seigneur. On dit que les raisons de l'anxiété sont 40%, on s'inquiète pour des situations qui n'arriveront jamais. 30%, on s'inquiète pour des événements du passé dans lesquels nous ne pouvons rien changer. 12%, on s'inquiète pour des critiques de gens, souvent non fondées. 10%, on s'inquiète pour notre santé. Et si on continue à s'inquiéter puis on s'inquiète pour notre santé, ça peut justement détruire notre santé. Et il y a seulement 8% qu'on peut s'inquiéter des vrais problèmes. Souvent, les inquiétudes viennent du passé et du futur. Mais Dieu parle aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Hier, c'était hier. Demain, c'est demain. La Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car chaque jour suffit sa peine. Dieu dit qu'on doit vivre le moment présent. Dieu a dit, je suis. Si on ajoute hier, si on ajoute avant hier, si on ajoute demain, si on ajoute après-demain, si on ajoute après-après-demain, c'est un poids qui est trop lourd pour nous. C'est trop lourd pour nous à supporter. On ne peut pas s'inquiéter plus qu'une journée. Demain, c'est demain. Qu'est-ce que je ferai demain? Quel travail que j'aurai demain? Dans quelle concentration je vais aller à l'université demain? Vais-je me marier un jour? Vais-je rencontrer quelqu'un? Comment mes enfants se porteront-ils demain? Mes enfants vont-ils être sauvés demain? Vais-je avoir assez d'argent pour vivre demain? Écoutez, on n'en finit plus, là. On peut commencer, on ne finira plus, frères et sœurs, de s'inquiéter pour le lendemain. Il y a des gens dans le sud des États-Unis qui ont tout vendu. Ils ont tout vendu. Ils se sont achetés un genre de bunker. Ils ont mis des canages, ils ont mis de la nourriture parce qu'ils savent que la fin du monde s'en vient, puis ils s'installent, puis ils attendent. Puis ils se disent chrétiens. Alors, c'est vraiment contraire à la parole de Dieu. Présentement, ma maison est à vendre. Est-ce que je vais vendre ma maison? Le courtier en immeuble m'a téléphoné, je crois, c'est 2 semaines. Il dit, Paul André, il m'a dit, fais-toi-en pas. Il dit, le marché présentement est très, il est pas bon, mais on pense qu'en février puis en mars, ça va décoller. Mais je ne suis pas inquiet pour ma maison. Lui est plus inquiet que moi. Lui a plus hâte de la vendre que moi. Parce que si c'est pas le temps de Dieu, c'est pas le temps de Dieu. C'est dans le temps de Dieu qu'on va vendre la maison. C'est dans le temps de Dieu que vous allez rencontrer la personne que vous devez rencontrer pour votre vie. Puis si Dieu ne le permet pas, c'est parce que Dieu ne veut pas. Demain, c'est demain. Le futur est en construction. Le futur n'existe pas. Vous avez aucun droit sur le futur. Oui, on peut préparer des choses pour le futur. On peut penser à quelle recette qu'on va faire cette semaine pour souper, si on a le droit de faire ça. Mais de s'inquiéter et de prévoir. Alors, le futur ne nous appartient pas. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à votre passé? Vous ne pouvez rien ajouter à votre passé. J'ai fait ci, j'ai pris de mauvaises décisions, j'ai fait des erreurs, séparation, divorce, perte d'emploi. Faut verrouiller le passé. On ne revient pas dans le passé. Souvent, les gens qui sont très vieux reviennent tout le temps dans leur passé. Et je crois sincèrement qu'il y a des bonnes choses qu'on peut se rappeler. Mais hier, c'est terminé. Le passé, c'est le passé. Et souvent, les chrétiens reviennent dans le passé et commencent à penser à leurs péchés du passé. La Bible dit que Dieu éloigne de nous nos péchés. Dans Psaume 103, verset 12, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Et souvent, ils ne sont pas capables de se pardonner eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont plus hauts que Dieu? On ne peut pas être plus haut que Dieu. Puis des fois, on pense, et si les gens pensent que, bon, telle chose que j'ai fait, puis, Seigneur, tu vas-tu être capable de me pardonner? Puis, la Bible dit, je me souviendrai plus de leurs péchés. Ésaïe 44, verset 22, j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Ce qu'on a fait dans le passé, les péchés du passé sont pardonnés et Dieu il dit, je m'en souviens plus. Pourquoi? Parce que le sacrifice de Jésus est tellement fort et tellement puissant, ça a coûté tellement cher à Dieu que ce qu'il a prévu pour nous, c'est quelque chose qui est efficace à 100%. C'est la même chose que nos réussites qu'on a faites hier, nos réussites du passé. Oh, on a eu du succès dans le passé, j'ai fait ci dans le passé, présentement j'ai moins. Et la Bible dit que le frère de condition humble se glorifie de son élévation et que le riche se glorifie de son humiliation. L'apôtre Paul a dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Pourtant, l'apôtre Paul, c'était un pharisien. C'est quelqu'un qui était reconnu, c'est quelqu'un qui était prêtre, c'est quelqu'un qui était citoyen romain, c'est quelqu'un qui avait été dans les grandes écoles. Il dit, je regarde ce que j'ai fait hier, je regarde ça comme de la boue. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Nos réussites d'hier, c'était hier. Ça n'a pas d'impact sur notre vie en ce moment, sur notre vie spirituelle. Alors, il ne faut pas se laisser s'arrêter, se laisser contrôler par ce qu'on a fait hier. Nous vivons dans le présent, dans la présence de Dieu. Hier, j'étais jeune, aujourd'hui, je suis vieux. Le passé, c'est de l'histoire. Le futur, c'est de l'espoir. Alors, frères et sœurs, le demain, le hier n'existe plus. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu nous donne la grâce pour la journée. C'est la même chose pour notre ministère. Puis on essaie tellement de prévoir les choses, de prévoir les coups. 1 Rois, chapitre 17. Dieu a dit, Élie, pars d'ici et tu iras vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit. Et je te nourrirai. Comme ça. Il dit à Élie, tu vas aller là, tu vas aller au torrent et je vais te nourrir. La Bible nous dit que Élie, le prophète Élie, mangeait et buvait tous les jours. Il y a des oiseaux qui venaient porter sa nourriture, ce qui est impensable, puis il y avait de l'eau dans le torrent. Un beau jour, le torrent était sec. C'est fini. Dieu dit, c'est terminé, tu vas aller à Sarepta chez une veuve. Et tu vas aller là, elle va te nourrir. Élie arrive là, il n'y a plus rien. La veuve, elle dit non, il reste quelques peccadilles, puis on va mourir. Et Dieu a pourvu pour Élie et pour la veuve et la famille. Et la Bible dit qu'Élie a mangé, lui, la veuve et toute la famille. En plus, le fils de la femme était sur le point de mourir, il ne respire plus. Puis il pria pour le fils et le fils a été guéri. Il y a une bénédiction. Dieu a pourvu, mais Dieu, l'homme de Dieu, il y a une bénédiction dans cette famille-là. Quand nous sommes à l'ouvrage, quand nous sommes à l'école, quand nous sommes à l'œuvre pour le Seigneur, il y a toujours une bénédiction. On est un sujet de bénédiction. Et après ça, Dieu dit, c'est écrit dans la parole de Dieu, bien des jours s'écoulèrent. bien des jours s'écoulèrent. Et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année. Là, il lui a dit, « Va, présente-toi devant Achab, et je ferai tomber la pluie sur la surface du sol. » Pourquoi? Parce que c'était un temps de famine. Et le Seigneur n'était pas prêt à faire son œuvre. Et Élie a resté chez la veuve pendant je ne sais pas combien de temps. Parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Et souvent, ce n'est pas un temps propice pour nous. Nous devons attendre. Il a dit à Élie, va te présenter devant Achab. Après ça, il y a eu la confrontation avec les faux prophètes. Et il gagne contre les prophètes. Et malgré sa victoire, il a peur de telle chose, il est inquiet, il a peur de si il part à la course, puis il va dans un autre endroit, puis il se cache dans une grotte. Il décide de partir de lui-même. Élie a dit, Dieu a dit à Élie, pars d'ici, tu iras vers l'Orient, tu t'en vas au torrent de Kérit. Après ça, il dit, non, là c'est terminé, tu t'en vas à Sarepta, tu t'en vas chez la veuve. Après ça, il dit, OK, c'est beau, c'est terminé. Beaucoup de mois plus tard, il dit, là, tu t'en vas, tu vas aller te présenter devant Achab. Et Dieu lui dit quoi faire. C'est un ministère. Dieu lui dit quoi faire. Puis son ministère est terminé devant les prophètes, devant Achab. Qu'est-ce qu'il y fait? Il part de sa propre force, sa propre idée. Il s'en va se cacher dans une grotte. Qu'est-ce que Dieu dit? Il va voir Élie, il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Après avoir vu les miracles de Dieu, après avoir vu que Dieu a pourvu pour lui, Dieu lui a donné quelques ministères, il part de lui-même, pensant que c'était mieux d'aller se cacher dans une grotte. Et Dieu dit, « Que fais-tu ici? » Alors voyez-vous, l'inquiétude pour le ministère, l'inquiétude pour si, non, Dieu sait ce qu'on doit faire. Tu peux être à l'œuvre dans une église toute ta vie comme tu peux servir Dieu dans plusieurs endroits. J'ai suivi le Seigneur dans une dizaine d'années dans une église. Après ça, j'ai été impliqué 3 années dans une autre église. Et récemment, on a été impliqué dans une dernière église pour 2 ans et demi. Et quand on est arrivé dans l'église, la dernière église, il y a 2 ans et demi à peu près, peut-être 3 ans, et je suis arrivé là, j'ai dit, il me semble que je sens que c'est ma place pour un certain temps. Et j'ai demandé au pasteur, j'ai dit, qu'est-ce que vous avez besoin, pasteur? Il dit, on serait peut-être à l'aise de venir dans votre assemblée. Le pasteur m'a dit 2 choses. Je n'ai plus personne pour la louange. Il faut que les gens de l'église, de l'école du dimanche se reposent. Et moi, j'arrivais là. Avec ma famille. Moi, j'étais impliqué dans l'école du dimanche. Ma femme est impliquée. Ma fille est impliquée. Et j'ai commencé à faire la louange. C'est Dieu qui décide. Nous ne devons pas être inquiets pour le ministère. Il a dit à Élie, c'est terminé. Tu t'en vas à une autre place. Tu vas aider l'Église, tu vas faire tel ministère, tu vas déménager, tu vas vendre ta maison. Quand je te le dirai. Il y a des gens qui sont mis à la retraite par Dieu, justement pour qu'ils servent dans l'Église. Sinon, pourquoi? Parce que s'ils n'avaient pas été mis à la retraite, ils n'auraient peut-être pas servi Dieu comme Dieu voulait. Par contre, il y a des gens qui essayent d'être dans des ministères, puis essayent de faire ci, puis de faire cela, puis se promènent tout le temps d'église en église, ils font jamais rien, ils sont jamais à l'œuvre. Éphésiens nous dit, nous avons été créés en lui pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Il ne devrait pas avoir d'inquiétude pour le ministère. Oh, on va la voir. Les inquiétudes aussi viennent souvent de la santé, de notre l'inquiétude face à la santé, la vie, la mort. Et ça, cette inquiétude-là, souvent on est face à cela. Et aujourd'hui, on est une génération où la société investit beaucoup sur l'exercice, beaucoup sur les vitamines, les suppléments, la santé, la peur de mourir, demeurer dans la meilleure forme possible. Et nous investissons des sous, nous investissons de l'argent, des assistances médicales, des diètes spéciales. Par contre, la Bible dit, et ce n'est pas mauvais ces choses-là, mais la Bible dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? On va tourner dans le psaume 91. C'est un psaume qui m'a renversé. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il y en a 10 000 qui vont tomber à gauche. Il y en a 10 000 qui vont tomber à droite, mais Dieu dit, toi, tu ne tomberas pas. Il y a des gens qui vont attraper une grippe, mais toi, tu ne l'attraperas pas. Pourquoi? Parce que je veille sur toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des anges qui te protègent aussi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous savez comment j'avais peur de prendre l'avion? Non, il faut que je la dise celle-là, là. Comment j'avais peur de prendre l'avion. Mais aujourd'hui, prendre l'avion, pour moi, c'est un... Je pense que c'est plus relaxant que d'être dans mon salon. Parce que quand je prends l'avion, là, c'est aujourd'hui, j'ai plus peur de prendre l'avion. Parce que je me rappelle à un moment donné qu'on était en haut de la ville de... Je me rappelle en haut de la ville de Chicago, j'étais avec ma mère. Puis, ça l'a vraiment brassé dans l'avion, la celle qui est à l'œuvre, qui est à l'ouvrage dans l'avion, l'hôtesse de l'air, elle a tombé à terre avec son plateau. Et là, mon cœur a commencé, j'ai eu des palpitations, et j'avais ma Bible, et j'ai tombé sur un verset, homme de peu de foi. Et je me rappelle pas du verset, il me disait, je suis maître de tout, homme de peu de foi. Je peux vous dire, aujourd'hui, quand je prends l'avion, c'est comme si j'étais au ciel. Je me rapprochais. Plus que l'avion monte, plus que je monte avec, plus que je monte vers Dieu. Et je me sens tellement bien dans un avion, c'est qu'on dirait que il n'y a plus rien qui existe. Pourquoi? Parce que la terre n'est plus là, et je suis vraiment dans mon bain, Puis c'est comme, puis je vois les nuages, je vois le ciel. Puis, vous savez, en haut des nuages, le ciel est bleu. Et c'est comme si je m'envoie vers le ciel. Et Dieu est en contrôle. Vous allez dire, oui, mais c'est toutes des inquiétudes. C'est un exemple d'inquiétude. Dieu est en contrôle. Il y a, en 2001, il y a une femme qui a réussi à sortir des tours jumelles du World Trade Center. Et elle a réussi. Elle était sortie vivante des tours. Et elle était vraiment contente. Et quelques semaines après, elle a pris l'avion de New York et l'avion s'est écrasé. Ça, c'était dans les journaux. Écoutez, là, pour que cette femme-là puisse sortir des tours, puis se dire, ben, j'ai été chanceuse, puis elle prend l'avion, puis elle tombe, puis elle meurt. Alors, Dieu nous donne la vie avec un agenda très précis, avec le temps que nous allons vivre sur cette terre. Il sait le temps que ça va prendre. Je ne veux pas vivre plus longtemps qu'il m'a donné et moins de temps qu'il m'a donné également. Je veux vivre seulement mon temps. Faire le ministère qu'il m'a donné à faire. Parce que la Bible nous dit que nous sommes de passage. Paul parle, nous dit que nous sommes dans une tente temporaire, le corps. Une mission, ou une mission secrète. Une mission secrète parce que la Bible dit que nous n'avons pas été révélés au monde, au service de Sa Majesté, comme le film de James Bond. Alors, nous n'avons pas de contrôle sur notre vie. Nous pouvons faire de l'exercice, nous pouvons améliorer notre façon de manger, de se dépenser, de boire ces choses-là, mais je pense que nous allons mieux vivre. Mais la Bible est claire. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à toutes ces inquiétudes-là? C'est quoi le pour vaincre ça? C'est quoi la façon de faire? Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est sûr qu'il était présent, il était sur le sermon de la montagne et les gens venaient le voir. Et quand il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, cherchez premièrement le royaume, ça veut dire le salut. Et la justice de Dieu qui va prendre soin de vous. Mais si on revient dans Philippiens chapitre 4, verset 6 de l'apôtre Paul, après qu'il ait dit, ne vous inquiétez de rien, il a dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu. Si vous avez des tracas, si vous êtes inquiet, priez pour toutes choses. Et souvent, on ne veut pas prier pour des petits tracas, des petits soucis, parce qu'on pense que Dieu s'intéresse plus à des endroits où il y a de la guerre, où c'est encore plus dangereux, où il y a des famines, ces choses-là. Mais Dieu s'intéresse à des gens qui s'intéressent à lui. Amen. Amen. Toute notre vie l'intéresse. Si nous voulons passer à travers les inquiétudes, nous devons faire connaître nos besoins à Dieu. Nous devons prier, des prières, des supplications, des actions de grâce. Les chrétiens stables spirituellement réagissent aux épreuves avec des actions de grâce. Ce genre de prière est l'antidote à l'inquiétude. C'est pas évident, des actions de grâce. On ne doit pas douter quand on prie, on ne doit pas accuser Dieu en même temps, comme la femme de Jacques, mais on doit se décharger sur lui, de décharger sur lui tous nos soucis. La Bible dit qu'il a dit qu'aucune épreuve ne serait trop difficile. Psaume 62, verset 12, d'être reconnaissant pour la puissance de Dieu. Deutéronome, chapitre 1, verset 11. Toutes les promesses de Dieu, Dieu nous a donné beaucoup de promesses. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. un espoir d'être libéré de la souffrance. Romains chapitre 15, verset 9, la miséricorde de Dieu, faire connaître nos besoins à Dieu parce que Dieu est infiniment grand. Et quand je dis nos besoins, ce ne sont pas nos caprices. Il ne faut pas être préoccupé par des choses qui sont qui vont aller pour notre réussite sociale. Des choses inutiles. S'inquiéter pour des choses qui n'ont vraiment pas de rapport concernant Dieu. Je me rappelle à un moment donné, j'avais une de mes clientes qui se préparait pour aller dans son nouveau condo face aux plaines d'Abraham. Puis, elle me disait comment ça lui avait pris un an à s'inquiéter, à être anxieuse pour tout préparer la décoration de son condo. Elle dit, monsieur, elle dit, j'endors pas des nuits pour décorer un condominium. Alors qu'en Afrique, il prie pour pas avoir d'accident. David dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mais qu'est-ce qu'on recherche? Matthieu 6, verset 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. C'est une communion, il faut décharger nos soucis sur lui, de prier Dieu quand on est inquiet. Et si on regarde Paul, il finit par, dans Philippiens chapitre 4, verset 6, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Nous avons besoin de la paix de Dieu. Ésaïe chapitre 26, verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Nous avons besoin de la paix de Dieu pour passer à travers les inquiétudes. Paul définit cette paix-là comme quelque chose qui dépasse toute intelligence. Je vais revenir dans Philippiens, chapitre 4, verset 6. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu, c'est quelque chose de surnaturel. C'est une œuvre surnaturelle. C'est quelque chose d'incompréhensible. On dit que la paix de Dieu est supérieure aux machinations de l'homme, aux formules et aux solutions humaines, étant donné qu'elle a pour source Dieu. La paix de Dieu. Et le défi de la vie chrétienne n'est pas d'éliminer toutes les situations désagréables, toutes les inquiétudes, mais plutôt à croire au dessein bienveillant de Dieu infini, saint, souverain, tout-puissant, quelle que soit la difficulté. La paix de Dieu va vous garder de toute anxiété, de toute inquiétude. Et c'est ça qui est difficile à aller chercher. C'est ça qui est difficile. De garder la paix de Dieu. Parce qu'on sait, la Bible dit que nos cheveux sont comptés. Les années de votre vie, de notre vie, sont comptées. On le voit dans l'Ecclésiaste. Les œuvres sont déterminées d'avance. L'héritage est déjà fait. Nous avons une famille spirituelle et nous avons l'éternité. 50, 60, 75, 90 ans sur des milliards d'années. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Il y a des événements dans notre vie qu'on ne peut pas tout le temps comprendre. Et à la fin d'août, j'ai eu une prophétie d'un monsieur à l'église une église dans la région de Québec. Et la prophétie était « Arrête d'essayer de comprendre des choses dans ta vie. » Et j'essaie tout de décortiquer, j'essaie tout de comprendre le pourquoi des pourquoi. Alors que Dieu est Dieu. Oui, il y a certaines choses, on doit avoir des inquiétudes. Et les inquiétudes sont là pour rester. On a tout le temps les inquiétudes. Et la Bible dit, c'est plus que ça. La Bible dit même, Dieu a dit, Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais Dieu, celui qui veut me suivre, doit porter sa croix. Il va avoir des épreuves, il va avoir des choses. Et Paul a dit, ne vous inquiétez de rien, alors que lui a été maltraité, a été persécuté, a été lapidé, a souffert de la faim, de la soif. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Paul a repris l'enseignement de Jésus. Ne vous inquiétez de rien. On doit s'inquiéter de certaines choses. Mais on doit faire confiance à Dieu. Sinon, notre marche spirituelle est coupée. Il faut s'inquiéter. Il y a deux petits garçons comme ça qui sont en train de revenir à la maison. Puis ils reviennent de l'école du dimanche. Puis il y en a un qui dit à l'autre, il dit, qu'est-ce que tu penses, il dit, de ce qu'on a appris un matin à l'église, toutes les choses sur Satan. Puis là, l'autre petit garçon le regarde, puis lui dit, nous autres, on croyait au Père Noël, puis tu sais, qu'est-ce qui est arrivé avec l'histoire du Père Noël? Alors, inquiète-toi pas, Satan, là, ça doit être ton père. Ah oui, il faut quand même s'inquiéter. Hudson Taylor, c'est le missionnaire qui est allé en Chine, qui est fondateur de Overseas Missionary Fellowship, qui donne un bon conseil. C'est quelqu'un qui était vraiment, qui est un homme de Dieu, quelqu'un qui était à l'œuvre pour la Chine, quelqu'un qui est un homme de prière. Puis lui, il donne un conseil, il dit, remettons notre travail, remettons nos plans, remettons-nous nous-mêmes, notre vie, les gens que nous aimons, tout dans les mains de Dieu. Puis après avoir fait cela, il dit, il n'y a rien qui peut nous troubler. Autrement dit, donnons tout à Dieu. Puis lui, c'est quelqu'un qui était vraiment éprouvé dans son ministère. Et je pense que, sincèrement, je pense que la paix de Dieu peut vraiment faire la différence, peut vraiment nous décharger de tout le fardeau qu'on peut avoir, toutes les inquiétudes qu'on peut avoir. Il y a quelqu'un qui a déjà dit, ne vous en faites pas pour la fin du monde aujourd'hui, car il est déjà demain en Australie. Alors, frères et sœurs, on est tous inquiets, je suis inquiet, mais je me suis rendu compte que plus qu'on a d'inquiétude, plus que la vie chrétienne, notre marche chrétienne est très difficile. Alors, premièrement, il faut laisser les petites inquiétudes de côté. Les petites inquiétudes, là, nos petits caprices, ces choses-là. Premièrement, on devrait faire cela. Après ça, voir les choses peut-être les plus importantes et prier pour ces choses-là. Puis remettre ça à Dieu, parce que tout est fait d'avance. On ne doit pas se casser la tête pour quelque chose qui est déjà fait d'avance. Malgré qu'on n'a pas de pouvoir, on n'a pas de pouvoir sur ce que Dieu fait et ce que Dieu va faire. Il y a des choses qu'on n'a pas de pouvoir. Mais on a des promesses que Dieu nous a dit dans le psaume 91. Il y a des promesses qu'on doit prendre. On doit prendre par la foi. Amen.